La fusée Atlas V a décollé il y a une semaine depuis la base américaine de Cap Canaveral. Le début d'un très long voyage vers Mars. Il lui faudra 6 mois pour atteindre la planète rouge. En attendant, les scientifiques de la NASA ont des étoiles dans les yeux.
C'était un magnifique lancement. Ça y est, la fusée est en direction de Mars désormais. Je pense qu'il n'y aura pas de découverte plus grande dans l'histoire de l'humanité que de trouver de la vie qui ne vient pas de notre monde. Et je pense que cela transformerait fondamentalement notre façon de faire de l'exploration dans le futur.
Les attentes autour des traces de vie que le robot américain baptisé Perseverance pourrait découvrir sont grandes. Car à terme, ce sont des hommes que les États-Unis aimeraient envoyer sur Mars. Et dans ce domaine, ils sont concurrencés par la Chine. Ce qui rappelle un autre affrontement, celui entre les États-Unis et l'Union soviétique, pour poser un pied sur la Lune dans les années 60. La nouvelle bataille porte donc sur Mars, et elle est sino-américaine. En attendant l'envoi éventuel du premier homme sur Mars, les États-Unis prennent les devants. Après les forces spéciales, voici les forces spatiales. 16 000 hommes et femmes recrutés pour assurer la sécurité des opérations américaines en orbite, comme la protection des satellites par exemple. Tout est prêt. Jusqu'au drapeau.
L'espace, c'est le futur. Aussi bien en termes de défense que d'attaque. Et de tellement d'autres choses. Et d'après les rapports que l'on fait, nous sommes les leaders dans l'espace.
Pourquoi cette course vers Mars? Quand l'homme pourra-t-il s'y poser? Terre hostile, la planète rouge peut-elle devenir le terrain d'un affrontement géopolitique?
Réel intérêt offre ces missions vers Mars, Alain Siroux. Qu'est-ce qui intéresse les scientifiques? Qu'est-ce qu'on va essayer d'aller comprendre?
Ma réponse est très simple. Vous sortez ce soir, vous attendez que le Soleil disparaisse et vous levez les yeux vers le ciel. Vous allez voir Jupiter, Saturne, vous allez attendre minuit, minuit et demi, vous allez voir apparaître une petite lueur rougeâtre qui chaque nuit davantage va grandir, ça s'appelle Mars. Et ça, ça existe depuis que l'humanité est humanité. Si Platon revenait, si Charlemagne revenait, il ne reconnaîtrait rien de ce monde, évidemment, sauf le ciel. Et il se questionnait aussi à l'époque sur le ciel. Et donc ce ciel qui est la nature, qui est notre lien avec l'extérieur, fascine parce que nous avons la capacité aujourd'hui à rentrer dedans. Nous avons inventé la lunette, nous avons inventé des satellites qui permettent de voyager dans l'espace. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble? Est-ce que la vie, un jour, a existé à la surface de cette planète?
Alors, justement, au départ, on va se rendre compte que d'aller de la planète Terre à Mars, Benjamin, c'est pas très simple parce que c'est pas à côté, c'est votre chiffre du jour.
Pas la porte à côté. 55 millions de kilomètres séparent la Terre et Mars. En ce moment, 55 millions, d'habitude, c'est 76 millions, si les planètes sont un peu plus alignées, donc c'est un peu plus près que d'habitude. Et dans ces conditions, le voyage Terre-Mars dure entre 6 et 7 mois. Ce sera le cas donc de la sonde Persévérance à laquelle vous avez contribué, Sylvestre Maurice, en conceptualisant, en concevant une sorte de scanner. Est-ce que justement ce chemin qui doit être accompli va aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il y a des risques que il n'y est pas à la limite de persévérance, n'arrive pas sur Mars. C'est possible, ça?
C'est dur pour... Non, vous avez raison, parce qu'on envoyait on envoyait 45 sondes à peu près vers Mars depuis les années 60, et on a un succès qui est mieux qu'une sur deux, quand même, surtout ces dernières années. Donc, on peut rater, parce qu'il y a le décollage. Maintenant, les fusées, on maîtrise, c'était il y a quelques jours, elle est bien partie, elle est en chemin. L'arrivée sur Mars, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a une atmosphère qui est relativement ténue, donc pour finalement toute l'énergie, toute la vitesse qu'on a donnée au décollage, il va falloir tout annuler. Il faut qu'on arrive à vitesse zéro. Donc toute cette puissance qu'on a dit, voilà, c'est un problème d'énergie, il faut que ça devienne zéro. Alors on va avoir un bouclier qui brûle, ensuite on va avoir des parachutes, ensuite des rétrofusées. Ah oui, c'est dur, mais ça va marcher. Mais c'est quand même dur.
Et le but de persévérance, c'est quoi? On nous dit de trouver des traces de vie, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il y a eu...
On ne sait pas, c'est pour répondre à cette question. Donc pendant des années, début des années 2000, on cherchait des traces d'eau. On en a trouvé plein. Et puis, 2010, on était plutôt à Curiosity. Ça fait 8 ans aujourd'hui même qu'il est à la surface de Mars. On était dans l'habitabilité. Il y a eu tout ce qu'il faut pour que Mars soit un jour habitable. Oui. Alors, on essaie d'aller plus loin. On s'est dit, est-ce qu'il y a eu la vie? Finalement, on ne sait rien. Il n'y a que sur Terre. Le seul exemple, on connaît 8 planètes autour du Soleil et puis autour des milliards de milliards d'étoiles de la galaxie ou d'autres galaxies. Il y a globalement autant d'étoiles que de grains de sable sur Terre. Combien ont des planètes? Beaucoup. Combien ont la vie? On n'en sait rien. On ne peut pas faire de statistiques avec un point sur Terre. Et on se pose la question, est-ce qu'il y a 3,5 milliards d'années, À l'époque où Mars est habitable, il y avait des traces de vie. Et c'est pour ça qu'on envoie Persévérance. Il a regardé, est-ce que je vois des traces de vie? Et comme c'est très difficile, la vie à cette époque, hein, c'est des bactéries, on va faire une deuxième stratégie. Il y a la stratégie in situ. Et à la stratégie, je fais des petits paquets, ouais. Des échantillons, je les pose au bord du chemin. Et puis je me retourne vers les agences spatiales, l'ESA européenne et la NASA, en disant, allez les chercher. Et donc c'est la première mission de retour d'échantillons.
En 2031, c'est ça.
2031, ils reviendront, voilà. On vient enfin de lancer. Pour nous, c'est le Graal. Si vous vous souvenez de la Lune, les échantillons de la Lune, ça a fait vivre des générations de scientifiques. Ouais. C'est comme ça qu'on a compris l'âge de la Terre, enfin l'âge du système.
D'accord, beaucoup de choses, en effet, oui.
Voilà.
Benjamin.
Isabelle Surbes-Vergel, l'idée, c'est aussi de trouver de l'oxygène, de créer de l'oxygène là-bas pour aujourd'hui, un jour, envoyer un homme sur Mars.
Moi, je fais des politiques spatiales, je dirais la création de l'oxygène, ça relève pour moi plutôt quand même de la science-fiction. À cette échelle, alors
on va le faire.
Il faut tout faire. On fait complètement confiance. Après, quand, combien, ça, c'est
un instrument qui va créer de l'oxygène pour la première fois. Ouais. Mais c'est un démonstrateur. Il est à l'échelle 1/200 de ce qu'il faudrait un jour pour avoir des astronautes. Donc voilà, on essaie petit. On prend de l'atmosphère et on fait de l'oxygène.
Mais Isabelle Soubrez-Verger, quand même, la politique spatiale, c'est ce que vous faites, ça veut dire un homme sur Mars. C'est possible quand ?
Alors, est-ce que ça veut dire un homme sur Mars ? Ça, c'est pas tout à fait évident. Enfin, je veux dire, c'est ce qui fait rêver tous les hommes. C'est-à-dire, quand vous interrogez des étudiants, c'est une réponse qu'ils font très souvent. C'est-à-dire, si on connaissait Mars ou toutes ses coutures avec des instruments automatiques, mais qu'on n'y ait pas mis les pieds, est-ce que pour vous, on aurait réussi l'exploration de Mars ? La plupart des gens répondent non. Parce que pour eux, l'idée d'exploration, c'est qu'il y ait quand même un humain qui ait posé un pied dessus. Donc, effectivement, on comprend. Maintenant, une politique spatiale, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est de la recherche scientifique, c'est aussi de la fierté nationale.
Mais un homme en 2033, ça vous semble quelque chose de possible ou pas ?
Bah, tout dépend du budget que vous mettrez.
D'accord.
Voilà, c'est simple que ça. Voilà. Après, tout dépend du budget que vous mettrez, tout dépend des compétences. En 2033, c'est quand même assez court. Hein. Oui, je suis en train de réfléchir. 2033, 13 ans, dans 13 ans, c'est juste.
Alors, Benjamin.
Après, il y en a un qui a de l'argent et qui y croit, c'est Elon Musk, parce que lui, il voit ça dès 2024. On l'écoute.
Je crois que nous sommes réellement au début d'une nouvelle ère pour les vols spatiaux, d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale. Nous irons sur la Lune, nous aurons une base sur la Lune, nous enverrons des gens sur Mars et créerons une vie multiplanétaire. Ce jour marque le début d'une nouvelle ère pour l'exploration spatiale.
Alain Cyrou, il nous fait rêver quand même, Elon Musk.
Oui, mais quand vous allez voir un film avec des zombies, si vous ne croyez pas aux zombies pendant 2 heures, vous allez vous embêter. Mais si vous croyez encore aux zombies en sortant, c'est que vous avez un problème. Donc on a là Luke Skywalker. Très bien, Luke Skywalker fait des déclarations. Nous allons réussir à conquérir Mars. D'ailleurs, on va emmener presque 1 million de personnes dans les années qui viennent, etc. Mais Luke Skywalker, c'est aussi Dark Vador. C'est-à-dire que c'est la face cachée, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Alors, le rêve, il est partagé par tout le monde. Et le rêve, c'est un moteur d'une puissance extraordinaire. Donc là, il parle de rêve. La réalité, elle est différente. Parce que la réalité de Elon Musk, c'est que c'est d'abord un entrepreneur. Mmh. Et un entrepreneur a pour objectif de gagner de l'argent. Donc, la source de l'argent de Elon Musk pour les explorations spatiales, d'abord, c'est la NASA. C'est-à-dire le gouvernement américain, c'est-à-dire c'est lui qui paye. Donc c'est un prestataire de service, donc il flatte son client. Deuxième chose, peut-être ce sont des milliardaires qui pourraient partir. Admettons que ici vous soyez très bien payé, que vous receviez 60 millions de dollars à la fin de l'année comme prime. Vous pourriez peut-être partir pendant 8 jours à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est le coût moyen, 50 millions. Il y a 7 milliardaires qui sont partis comme ça. Et puis, le reste, ben, ce sont des choses qui sont un peu plus discrètes. C'est la défense avec le Pentagone. Donc, il y a quand même 2 fois plus d'argent que la NASA. Et puis, c'est bien évidemment l'idée que derrière cela, il y a 3 milliards d'individus qui ne sont pas connectés à Internet et qu'il faudrait pouvoir alimenter avec des satellites.
Alors, ça, c'est son autre projet, en effet, Elon Musk. Mais alors, je vais juste reprendre votre métaphore. Luke Skywalker gagne à la fin. Là, il gagne tout le temps, Elon Musk, pour l'instant.
Alors, pour l'instant, il n'a pas gagné. Pour l'instant, il est le premier d'une compétition où tous les concurrents ne sont pas arrivés. Vous avez aussi Jeff Bezos qui arrive bientôt. Vous avez des gens qu'on connaît bien qui s'appelle Boeing, qui s'appelle Martin Marietta, qui sont des grosses sociétés qui sont bien installées. En fait, ce qui se passe, c'est que la NASA a commencé à prendre des prestataires. Et elle a pris comme premier prestataire pour l'espace l'équivalent de Uber pour le taxi. C'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser des technologies existantes mais qui va faire baisser très fortement les coudes pour essayer de tuer tous les autres candidats à la concurrence.
C'est ça.
Mais
Isabelle Surbers-Verger, est-ce que justement l'avenir n'est pas du côté des privés, des particuliers, plutôt que des États aujourd'hui dans la conquête spatiale et dans la conquête de Mars?
Alors très honnêtement, les missions martiennes que vous avez là, c'est toutes des missions étatiques. Il n'y a pas un seul privé qui y est.
Donc,
non, mais je pense que Elon Musk, j'aurais peut-être une nuance. Je pense qu'il y croit. C'est-à-dire que je pense qu'il a cette vision, et il y a un ouvrage très intéressant qui s'appelle Space and the American Imagination, et où on montre très bien comment finalement c'est quand même, ça fait partie de l'ADN américain. Et là, je pense qu'il en est persuadé, et en plus, évidemment, il se met lui-même en scène et il se voit bien en train d'ouvrir cette nouvelle histoire glorieuse des États-Unis. Mais d'une certaine façon, je pense qu'il y croit. Après, très honnêtement, les objectifs quand même du spatial, c'est des objectifs commerciaux. Et c'est beaucoup des télécommunications ou de l'Internet, des objectifs d'observation de la Terre. Et là, il ne faut quand même pas oublier les pays en voie de développement pour qui c'est l'essentiel des moyens qui leur permettent de gérer leur territoire. Alors, ça fait moins rêver, mais de fait, dans la pratique, ils en ont tous les jours besoin. Et l'Inde, si en Inde, tout le monde vous parle du spatial avec beaucoup d'émotion, c'est qu'ils se servent du spatial tout le temps, depuis toujours. Et donc, vous avez les applications, vous avez l'exploration, la science, etc. Vous avez la question de l'homme. Et puis, vous avez quand même ce grand volet, comme tu dis, de l'espace militaire, qui, lui, pose aussi aujourd'hui beaucoup de questions, y compris avec cette idée qu'on pourrait imaginer de se faire la guerre dans l'espace, bon, qui est en soi un vaste sujet.
Sylvain Maurice, si demain on allait sur Mars, s'il y avait une base, à quoi ça ressemblerait aujourd'hui? On a en tête Hollywood, hein, forcément, seul sur Mars, etc. Est-ce que c'est proche de la réalité?
Alors, en tout cas, c'est proche du rêve. Ce qui est très clair, c'est qu'on y pense. On le prépare, on fabrique un peu d'oxygène, les radiations, etc. Pour l'instant, on n'a pas le début de la technologie pour faire tout ça. Hein.
D'accord.
On a parlé d'un retour d'échantillons. Nous, notre rêve, c'est ramasser, rapporter un kilo.
Un kilo.
Un kilo, il nous faut 10 ans. Et ça, on sera tellement heureux. Donc, on aurait les moyens, probablement en 2035, de faire une mission orbitale. C'est-à-dire, je reste en orbite. Si un jour, vous voulez imaginer une station spatiale, une station martienne. Vous prenez l'ISS, intellectuellement, vous le posez sur Mars.
D'accord.
Ça s'appelle pas la vie, ça s'appelle la survie. C'est une station d'exploration scientifique. C'est pas l'avenir de l'homme. Qu'on soit, pour tous vos auditeurs, qu'on soit très clair, l'avenir de l'homme, c'est la Terre. Donc, il faut soigner la Terre.
Il n'y a pas de planète B, en gros.
Il n'y a pas de Terre 2.0, il n'y a pas de plan B. On va sur Mars pour faire de la science, pour comprendre comment la vie naît sur une planète, ce qui est fondamental pour regarder l'univers. Et ça justifie un très grand programme. On va y mettre du temps. Il y aura des humains un jour, j'en suis persuadé. Longtemps, on y va. Voilà.
C'est toujours la francisation du ciel. C'est-à-dire, là, vous voyez, demain démarrent les nuits des étoiles.
Oui, tout à fait, pour 3 jours.
Pour 3 jours, dans toute la France, etc. Je pense que vous installez une lunette ou un télescope au milieu de nulle part, vous avez immédiatement un attroupement autour de vous. On veut voir les cratères sur la Lune, on veut voir les anneaux de Saturne, on veut voir la tache de Jupiter. Il y a quelque chose, c'est cette puissance de rêve qui fait que la curiosité, on se retrouve enfant, et puis on pose des questions et on devient scientifique.
Mais il y a la présence humaine aussi qui nous fascine pour Mars, les Martiens.
Oui, mais n'oubliez pas, on parlait de Camille Flammarion. Il y a un siècle et demi, Camille Flammarion disait « il faut communiquer avec les Martiens ». Comment communiquer avec les Martiens? Par télépathie. Vous voyez, les époques changent, mais l'idée que Mars pouvait être une planète habitée et la question de l'habitabilité des mondes, elle ne cesse jamais d'intéresser et les scientifiques et le public, parce que on découvre qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles. Et Sylvestre disait qu'il y a autant, si ce n'est pas plus, d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre. Vous imaginez les potentialités si on accepte que la vie est partout. Donc ça veut dire qu'il y a cette espèce de fascination et de curiosité et d'interrogation fondamentale qui est le sommes nous seuls dans l'univers, nous renvoie par image à ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire qui nous sommes et quel est notre destin.
Voilà, alors ça, ce sont des vraies questions, mais il y en a une autre, alors qui est un peu plus prosaïque. Hein, vous allez voir, et c'est Sonia, je vais vous la poser à vous. Au fait, ça appartient à qui l'espace?
Très bonne question. En théorie, à personne, ou bien à tout le monde. L'espace extraterrestre est en effet considéré comme un bien commun international. C'est en tout cas ce qui prévalait jusqu'à ce que l'Amérique de Donald Trump vienne récemment un peu bousculer ce droit spatial. En avril dernier, le président américain a signé un décret qui est passé relativement.